la contribution de Florian Michel, qui va nous situer, lui, comme dans, par une sorte de passage de témoin, dans les années 50, précisément, et dans un moment particulièrement difficile pour Étienne Gilson, qui est celui qui le voit quitter le Collège de France, qui le voit, pour ainsi dire, chassé de l'Académie française, qui le voit, pour ainsi dire, chassé de la France, et qui le voit commencer une manière d'exil au Canada. Alors, il y a à cela une raison qui va nous être exposée en détail par Florian Michel, qui donc a, je le rappelle, co-organisé, enfin même organisé cette journée. Florian Michel vient de publier une biographie d'Étienne Gilson qui n'est pas passée inaperçu, et je m'en réjouis. Et il va nous parler de la querelle du neutralisme et de la manière dont on peut un jour quitter cette maison dans un silence glacial en se voyant refuser jusqu'à l'honorariat.
Merci Alain de Libera pour ces mots d'introduction. Je vais vous présenter un Gilson qui est finalement très peu connu. Et au contraire de Maritain, Gilson n'a pas pour l'instant la gloire et les honneurs des œuvres complètes, tant et si bien que le Gilson qui était lu par ses contemporains parfois toutes les semaines dans la presse nationale, eh bien, nous est désormais tout à fait ignoré, et ça crée des dissymétries, à mon sens, tout à fait fâcheuses dans les interprétations des auteurs. Concrètement, par exemple, Michel Fourcade mentionnait tout à l'heure « pour un ordre catholique », ce n'est jamais que la moitié des articles que Étienne Gilson a publiés dans la revue 7, l'autre moitié, qui les a lus aujourd'hui, fort peu de monde, je pense. Pareillement, les 150 articles que Gilson publie dans Le Monde entre 1945 et 1900 et au milieu des années 50, qui les a lus, qui peut y accéder facilement, c'est là des éléments pratiquement qui interdisent parfois toute généralisation trop hâtive sur les positions de Gilson. Donc concrètement, au terme presque de cette dense demi-journée sur Gilson, je voudrais essayer de redescendre des hauteurs de la philosophie, de la métaphysique, de la théologie politique, pour essayer de présenter un dossier d'une affaire célèbre en ces lieux, la fameuse affaire Gilson, une affaire bizarre, une affaire complexe, autour de laquelle, à vrai dire, je tourne depuis des années. Ça fait plus de 10 ans que j'essaie de clarifier cette affaire et je ne suis pas sûr d'y être tout à fait arrivé. Dans la biographie de Gilson, parue en mars dernier chez Vrin, j'ai déjà risqué quelques pages sur le sujet et je voudrais essayer de les reprendre, de nuancer quelques éléments pour des raisons toutes matérielles. En février dernier, donc il y a 2 mois, j'ai pu enfin me rendre à la Library of Congress à Washington pour examiner les archives de Waldemar Gourian, dont vous avez la lettre dans les exempliers distribués, la lettre qui sert d'étincelle pour l'affaire Gilson. Et ce coquin de Waldemar Gourian, plutôt que de laisser ses archives dans l'université où il avait enseigné pendant plus de 20 ans, les a expédiées à Washington, les rendant, faut bien dire, globalement moins accessibles. Par ailleurs, j'ai pu aller les semaines dernières dans les archives du ministère des Affaires étrangères afin d'essayer d'apprécier le poids du neutralisme et au sein de l'appareil d'État français, au sein de la diplomatie française, pour essayer de mettre en perspective, si vous voulez, au-delà de l'affaire Gilson, cette question du neutralisme. Il me manque tout de même un certain nombre de pièces dans le dossier, tout simplement parce que c'est un incendie, au sens où elle met aux prises un grand nombre d'intellectuels, de publicistes, de grande envergure, Étienne Gilson, bien sûr, Hubert Beuve-Méry, Raymond Aron, Le Monde, Le Figaro, mais aussi Gabriel Marcel, François Mauriac, Pierre Boutan, Waldemar Gourian, et j'en passe. C'est tout à fait étonnant de voir le nombre de grands auteurs qui vont apporter leur petite étincelle à cette affaire. Cette affaire est importante pour diverses raisons. D'abord, effectivement, elle met un terme assez sombre à la présence d'Étienne Gilson en ses murs. Concrètement, on lui refuse l'honorariat, ce qui ne s'était pas produit dans la maison et dans un contexte politique explosif. Ça met également un terme à la carrière politique d'Étienne Gilson, au sens où il va être en rupture, désormais en rupture amicale avec la démocratie chrétienne, son propre parti, le MRP, mais rupture tout de même. C'est à ce moment-là que Gilson va partir et demeurer au Canada pour ne revenir en France qu'au milieu des années 50. Mon intervention sera ordonnée autour de 5 points assez allusifs, vous allez voir. Un premier point sur le neutralisme. Qu'est-ce au fond que ce neutralisme ? Et à lire les archives des affaires étrangères, j'ai acquis une conviction, c'est que vraiment le neutralisme, et donc Gilson, qui était le champion du neutralisme, était l'ennemi de la 4e République et de la diplomatie française. Deuxième point sur la genèse et le contexte national et international de l'affaire. Un troisième point sur le débat en fait, entre Raymond Aron, Valdemar Gourian et Étienne Gilson. Un quatrième point sur littéralement la campagne de diffamation. Au fond, comment on assassine un homme ? Comment un professeur du Collège de France peut être médiatiquement liquidé ? Méfiez-vous, Alain de Libera, hein, dans les mois qui viennent, à ne pas prendre des positions trop véhémentes.
Mais pas encore été traité de rat d'élite.
Voilà. Donc, concrètement, comment dans la presse on liquide un intellectuel ? Et j'essaierai d'en tirer quelques conclusions. Premier point, donc, le neutralisme, voilà l'ennemi. Dans les années 1948-1951, alors que la logique d'affrontement des deux blocs se déploie et s'impose en Europe et en Asie, précisément le neutralisme est la route qui n'a pas été prise. Les partisans du neutralisme entendaient refuser pour la France le cadre bipolaire du conflit qui opposait Moscou, entre guillemets, et Washington, les deux villes étant devenues des concepts, mais surtout des modes de vie, des modes de pensée politique, des idéologies. Les partisans du neutralisme espéraient naïvement peut-être éviter le grand schisme de l'Europe et du monde, souhaitant proposer sur la scène mondiale une troisième force, comme l'on disait dans le vocabulaire diplomatique de l'époque, vocabulaire ambigu, puisque cela risquait de créer la confusion avec la troisième force, avec un T majuscule cette fois, troisième force de la 4e République, qui, elle, était favorable à l'Alliance Atlantique. Vaincu par la guerre froide, le neutralisme français est un parent pauvre de l'historiographie des relations internationales. Il est quasiment systématiquement défini par la négative, comme l'étymologie du terme l'exigeait en un sens, ni Moscou, ni Washington, ni Staline, ni Truman, ni le pacte de Varsovie, ni le pacte atlantique, ni le totalitarisme rouge, ni l'American Way of Life, ni Marx, ni le dollar, etc. Dans la seconde moitié des années 50, et plus encore au fil des années 60, dans un contexte à la fois analogue et distinct, on parlera de non-alignement et de pays non-alignés. Mais au moment de la controverse de Gilson, le terme n'existe pas encore. En positif, la notion serait à caractériser plus finement par le croisement des sources et ressources de l'histoire culturelle, de l'histoire de la diplomatie et de l'histoire des relations internationales. Ce qui m'a frappé à la lecture des archives du ministère des Affaires étrangères, c'est que le neutralisme est vraiment le danger qui menace la 4e République et l'unité du monde libre. Le communisme, à l'évidence, mais le communisme est facilement identifiable, le communisme, c'est l'ennemi. Mais le neutralisme, c'est le faux ami. C'est celui qui prend les couvertures, qui apporte de l'eau au moulin de l'ennemi, en quelque sorte, et qui ne voit pas clair dans la situation politique. Le terme sert souvent de repoussoir. Il est parfois présenté comme anti-américain ou philo-soviétique. Il est parfois décrit comme le doux songe de quelques intellectuels parisiens éloignés des tables de négociations et des terrains d'affrontement, assemblés dans une coterie réduite en nombre, mais fort influente dans les salles de presse et dans l'opinion. Concrètement, en 1952-53, le neutralisme est majoritaire dans l'opinion française. On est à plus de 45%. Au milieu des années 50, on a franchi la barre des 60% en faveur du neutralisme. Cependant, à l'avis des chancelleries, il est assimilé à la survivance d'un état d'esprit, je cite, à la survivance d'un état d'esprit défaitiste qui s'abrite sous les vocables de neutralisme et de troisième force. Il est considéré, je cite encore, comme un fléchissement de la volonté de résistance qui conduirait l'Europe à un désir d'apaisement avec l'URSS. Le neutralisme est, pour tous les responsables politiques, militaires, diplomatiques, impraticable au temps du rideau de fer, de la guerre d'Indochine et de la guerre de Corée. La France ayant besoin des subsides pour mener la guerre pour mener la guerre en Indochine. Aux analyses du diplomate Jean Laloy, un ami de Maritain, mais qui est aussi un ami de Gilson, l'opinion française en avril 1950 est dans ses bonnes largeurs favorable à la neutralité. Je cite « Par une sorte de réaction naturelle mal orientée, une part importante de l'opinion tend vers l'idée de la neutralité dans le conflit actuel. Elle redoute l'influence américaine, s'oriente vers l'idée d'une organisation européenne permettant de tenir la balance entre les deux blocs antagonistes. Cette idée a beau avoir un certain caractère de l'illusion, elle répond à un mouvement profond et on ne peut entièrement l'ignorer. » Bon, je vais vous épargner un grand nombre de citations, concrètement dans les archives, à la fois à la direction Amérique des Affaires étrangères, à la fois au secrétariat général du Quai d'Orsay, mais également l'ambassadeur de France à Washington, qui s'appelle Henri Bonnet à l'époque et qui est un proche de Maritain du temps de la Seconde Guerre mondiale, à la fois l'ambassadeur des États-Unis à Paris et également le général Eisenhower qui visite Paris. Enfin, tous les milieux diplomatico-militaires et politiques convergent pour dénoncer le neutralisme. Concrètement, il apparaît, quelques citations tout de même, comme un aveu d'ingratitude, comme une fissure dans le bloc du monde libre, comme une forme inversée du néo-isolationnisme américain à resituer dans le vieil héritage de la doctrine Monroe. Je cite l'ambassadeur de France à Washington, « Le néo-isolationnisme américain procède de la même erreur que le neutralisme européen. L'un et l'autre s'imaginent, au nom d'un égoïsme national mal compris, trouver la paix dans une dissociation qui serait fatale. Les deux erreurs cherchent à se justifier l'une par l'autre, tandis que, de toute évidence, l'Europe et les États-Unis sont dans le même bateau. » René Pleven, président du Conseil, se rend à Washington au printemps 1951, et en janvier 1951, il reçoit à Paris le général Eisenhower. Il lui explique, je cite, « Il est nécessaire que le général Eisenhower comprenne l'état d'esprit du pays. » C'est un compte-rendu d'entretien. « Il entendra beaucoup parler de communistes et de neutralistes. Dans un certain sens, les neutralistes sont les plus dangereux. » C'est stupéfiant. « Les neutralistes sont les plus dangereux. Ce sont souvent des gens riches, dont beaucoup ont été pendant l'occupation des collaborateurs. » Vincent Auriol, en visite à New York et Washington en mars-avril 1951, explique quant à lui devant le Congrès des États-Unis que l'océan Atlantique est devenu, je cite, « la Mare Nostrum, la mer intérieure de notre communauté, et que le neutralisme et la neutralité, qu'elles soient armées ou désarmées, » Alors, là, à travers la citation « neutralité armée », c'est une évocation directe de la position d'Étienne Gilson. Donc, que le neutralisme et la neutralité, qu'elles soient armées ou désarmées, sont des vocables, je cite, « étrangers à l'âme de la France, non seulement parce que c'est une absurdité morale, mais aussi parce que c'est un non-sens géographique et historique. » Quand on suit les analyses dans les appareils diplomatiques, l'information remonte jusqu'à la Maison-Blanche et jusqu'à Truman, à qui Eisenhower explique que, au fond, le neutralisme, c'est la version pire que le communisme, c'est du communisme qui ne dit pas son nom. Alors ça, c'est ce qu'explique Eisenhower à Truman. Certains, évidemment, ambassadeurs sur le terrain sont un peu plus nuancés et reconnaissent que le neutralisme est la position de la gauche non-marxiste. Donc on a là des petits écarts, mais plus ça remonte, en quelque sorte, dans l'organigramme d'État, plus les positions sont simplifiées et rendues insupportables. Alors évidemment, fort de ce tableau, comment parvenir à penser la position de Gilson à l'intérieur de ce neutralisme? D'abord, il n'est pas seul à porter la cause du neutralisme. Il est défendu par Claude Bourdet dans ce qui va devenir le Nouvel Observateur dans les années en 1950. Il est défendu par Hubert Boeuf-Méry, Jacques Nantais, qui est le gendre de Paul Claudel, également par les milieux liés à la revue Esprit, Emmanuel Mounier, Albert Béguin. Et on trouve à l'étranger, en Angleterre ou en Allemagne, un certain nombre de neutralistes non-marxistes. Et l'ensemble de ce paysage est évidemment beaucoup plus complexe que le tableau qu'en donnaient les détracteurs. Il convie ce neutralisme, un ensemble de sentiments et de raisonnements, dont l'un des traits communs, à mon sens, est peut-être moins de tenir compte du nouveau rapport de force issu de la guerre que des enseignements de la moyenne et de la longue durée des traditions politique et diplomatique des États concernés. Ma formule n'est peut-être pas simple à première lecture, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, un certain nombre de penseurs politiques ou de journalistes, de publicistes, refusent au seuil de la guerre froide le cadre intellectuel de la guerre froide et la bipolarisation du monde. Attentif à la longue temporalité, à la tradition des États-Unis, à la tradition de l'Europe, etc. Donc, en juin 1950, on trouve un dossier publié par l'Observateur intitulé « La neutralité est-elle possible ?», dossier absolument passionnant qui réunit des signatures les plus diverses d'Étienne Gilson à Jean-Paul Sartre, en incluant Louis Massignon, Paul Rivet, Jean-Marie Domenac, Bourdet, Beuve-Méry, etc., etc. Entre atlantisme et neutralisme, c'est vraiment très important pour comprendre l'affaire Gilson. Au fond, la querelle est extrêmement âpre, voire en certains aspects absolument irrationnelle. Le neutralisme est accusé de tous les maux, à la fois défaitisme, ingratitude, héritage de la collaboration, impuissance. Certains coups passent clairement sous la ceinture. Pierre Brisson, par exemple, dans Le Figaro en janvier 1951, qualifie les neutres, je le cite, « d'insexués ». La France neutre n'existe pas. Il y a des hommes neutres, au sens où il y a des hommes insexués. Ils sont en faible nombre, sous-entendu Dieu merci. Ce n'est pas d'eux qu'on attend le salut du pays. La réponse de Beuve-Méry poursuit dans la même veine, et il répond en substance qu'entre exhibitionnisme et impuissance, il n'y a parfois qu'un pas. À bon entendeur, les choses, c'est fait, les choses sont dites. Donc, le contexte, évidemment, international et national est extrêmement compliqué, et c'est dans ce petit tableau que s'insèrent les prises de position d'Étienne Gilson. Très haute intensité de la guerre froide, quelques mots rapides. En 1949, le traité de l'Atlantique Nord est signé. Mao est à la tête de la République populaire de Chine, Pékin est capitale, la RDA est fondée quelques jours plus tard, Staline tient toute l'Europe soviétique sous sa férule, la guerre de Corée commence en juin 1950, et les volontaires chinois interviennent contre les forces de l'ONU en novembre 1950 et mettent à jour l'extrême vulnérabilité de l'armée américaine. Les passions politiques en France sont à vif. La fragile 4e République est extrêmement divisée, je l'ai signalé, entre trois grandes forces. D'une part, cette troisième force qui est très hétéroclite, Parti socialiste, démocratie chrétienne, radicaux, et deux autres forces, d'un côté le gaullisme et de l'autre côté le Parti communiste français. La singularité de Gilson, c'est que membre du RMRP, donc membre de la coalition au gouvernement, membre d'une des assises de la 4e République, il va se retrouver sur l'échiquier politique et dans l'interprétation des relations internationales avec ceux qui précisément ne constituent pas la troisième force au sens de la 4e République. Et donc, c'est un traître à la cause, à l'unité en tout cas, de son parti. Il n'est pas seul dans son bateau, si je puis dire, mais ça redouble en quelque sorte sa complexité, la difficulté de son moment. Concrètement, la première occurrence de l'expression « affaire Gilson » est à trouver dans l'éditorial du journal maurassien « Aspect de la France » en date du 9 février 1951. Je pense que c'est sous la plume de Pierre Boutan, mais c'est un éditorial, donc il n'est pas signé. L'intention en créant l'expression « affaire Gilson » était polémique. Il s'agissait de dénoncer la révolution, je le dis dans le vocabulaire de l'aspect de la France, donc de l'Action française, le journal maurassien, où Jean Madiran collabore activement. Donc pour Pierre Boutan, l'idée c'était de dénoncer la révolution de 1944, révolution de 1944 qui dans le langage courant s'appelle la libération. Et concrètement, il s'agissait pour Pierre Boutan de montrer la médiocrité, la mauvaiseté des élites qui s'emparent du pouvoir en France après la libération. Je cite Pierre Boutan, « L'affaire Gilson, première occurrence, pour affreuse qu'elle soit et déshonorante, remet en ordre les valeurs bousculées par la plus hypocrite et la plus lâche des révolutions, celle de 1944. » En 1947, la démocratie chrétienne, riche en dépouilles et prébendes de la Révolution, pauvre en grand nom, avait besoin d'un sénateur illustre, etc. etc. Et ensuite, c'est Gilson qui se fait donc fusiller. À l'arrière-plan de cette attaque, il y a ce que Michel Fourcade rappelait, la position de Jean Madiran dans sa relecture de Gilson, mais 10 ans plus tôt, dans les articles non republiés de Sète, Gilson s'en était pris assez violemment aux maurassiens et au maurassisme dans le contexte des ligues, et il y a des pommes de discorde qui sont très, très puissante entre Maurras et Gilson, et entre les Maurrassiens et la démocratie chrétienne. La formule « l'affaire Gilson » est réemployée une seconde fois dans le journal L'Aube, le 8 mars 1951, afin de mettre, je cite, « les calomniateurs au pilori » et de dénoncer l'esprit partisan qui animait ceux qui ont de toutes pièces créé une affaire Gilson. Commode à défaut d'être juste, la formule est aussitôt reprise par Hubert Boeuf-Méry pour qui l'affaire Gilson est, je cite, « un procès manqué ». Ce sont là des articles du Monde, le 10 mars et le 15 mars, et ensuite l'emploi de la formule se généralise. On est là donc au printemps 1951, la fin de cette affaire, de cette affaire Gilson. C'est extrêmement compliqué de la dater. Pourquoi ? Un certain nombre de témoins, notamment Étienne Borne, que Michel Fourcade évoquait également, dès la mi-mars 1951, expliquent « bon, l'affaire est close, circulée, il n'y a plus rien à voir, le dossier est clarifié, etc. etc. » Évidemment, c'est un petit peu optimiste. Il faut retourner toute l'année 1951, il faut examiner finalement jusqu'en 1957, 56-57, quand le Collège de France va conférer cette fois l'honorariat à Étienne Gilson, mais on en retrouve le fil jusque dans les années 60, quand le général de Gaulle décide de sortir de l'OTAN. On en retrouve également des éléments en 1978, au moment du décès de Gilson, quand le chroniqueur du Monde explique qu'en fait, Gilson avait raison avant de Gaulle, avec des accents, je le cite, pré-gaulliens. Donc c'est évidemment intéressant de voir un petit peu, disons, dans la longue durée, cette question de l'affaire Gilson. Maintenant, le terme est passé à la postérité. Sur le fond, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une affaire Gilson. Ou alors, il faut la dénominaliser en quelque sorte. À l'arrière-plan, c'est une affaire Gilson, Aron, Valdemar Gouriane. Et il faut en quelque sorte parvenir à tenir les trois pour rendre compte de cette explosion médiatique. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs étages dans cette controverse. En 1948-1950, il y a un étage qui est en quelque sorte public, officiel, où Raymond Aron et Étienne Gilson passent leur temps à se répondre par journaux interposés, et on a une bonne dizaine d'articles où Gilson défend la neutralité armée. Raymond Aron répond que la neutralité armée est une hypothèse farfelue, qu'elle est impensable, impossible, impraticable, c'est une illusion théorique, etc., etc., dans une démonstration très, empiriste, à la manière d'Aron parfois, et très guerre froide. Raymond Aron est, au contraire, lui, tout à fait acquis à cette bipolarisation du monde. Cette controverse entre les deux hommes, elle dure donc pendant pas loin de 18 mois, avec des moments de visibilité très forte, notamment à la radio. En décembre 1949, les deux hommes s'affrontent de manière extrêmement publique, et c'est un point important. Aron a suivi les cours de Gilson en Sorbonne au milieu des années 20. Donc les deux hommes, en tout cas Raymond Aron connaît Étienne Gilson, ils ont en gros une génération d'écart, et Aron a quelque chose d'assez agressif à l'égard de la position d'Étienne Gilson. Sans entrer dans tous les détails de la querelle entre les deux, ça serait vraiment intéressant de parvenir à republier l'ensemble des échanges, pas simplement les articles de Raymond Aron ou les articles de Gilson, mais d'intercaler en quelque sorte pour bien montrer la progressivité et la réflexion. L'homme le moins connu de la controverse, c'est ce Valdemar Gouriane. Et je voudrais présenter un petit peu Valdemar Gouriane, qui est vraiment l'homme, en quelque sorte, par qui le scandale arrive. Il est né en 1902, il meurt en 1954, c'est un homme assez singulier. Il est né dans une famille juive, mais baptisé très jeune, dès son enfance, dans le catholicisme. En Russie, il passe en Allemagne, il passe en Suisse. Ensuite, il va aux États-Unis au milieu des années 30, et il va fonder à Notre Dame, donc dans l'Indiana, l'une des plus importantes revues de sciences politiques, qui s'appelle la Review of Politics. Valdemar Gouriane est assez peu connu dans l'université française, en tout cas rarement cité. J'en ai trouvé qu'un, mais peut-être n'ai-je pas vu tous ceux qui pouvaient s'appuyer sur lui. Il y en a un qui le convoque régulièrement, c'est François Furet, dans Le passé d'une illusion. qui a 4-5 pages sur Valdemar-Gouriane pour montrer combien il est important, au sens où il parvient à dénoncer dès le milieu des années 20. Il est brillant, hein, Valdemar-Gouriane. C'est un homme qui parle parfaitement le français, le russe, l'allemand, l'anglais. Il a fait sa thèse sur l'action française. Il a travaillé sur Léon Blois, sur Veuillot. Il a travaillé sur le bolchevisme et sur le nazisme dans les textes, si je puis dire, et en analyste politique. Et c'est quelqu'un d'extrêmement bien informé. Donc, en tout cas, pour François Furet, Valdemar-Gouriane est un très bel exemple d'intellectuel qui parvient à dénoncer en même temps nazisme et communisme. Alors, il y a des notes qui sont très précises chez Furet, et peut-être je vous y renvoie tout simplement. Le Valdemar-Gouriane connaît Étienne Gilson. Gouriane a passé 5-6 ans à Paris avant de partir aux États-Unis. C'est un proche de Maritain, c'est un proche d'Yves Simon. Il collabore à la revue 7, à la revue des Dominicains. Il est très intégré au CCIF, le Centre catholique des intellectuels français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme très proche du monde catholique français. Et Gurian et Aron se connaissent nettement moins bien. Pour être franc, je n'ai pas trouvé le lieu où ils se sont rencontrés. La première lettre de Gurian à Aron date de 1946. La dernière date de 1950 dans le contexte de l'affaire Gilson. Et dans la lettre de 1950, les deux hommes se disent « Bon, bah, je serais très heureux de vous revoir, mais bon, on ne sait pas où ni quand exactement. » Toujours est-il que, à mon sens, c'est dans les grands colloques internationaux qu'organisent les universitaires des États-Unis en Allemagne, en France, mais Raymond Aron se rend aux États-Unis également en décembre 1950. C'est dans ce monde, finalement, un petit peu comme aujourd'hui, en un sens, où, à l'occasion d'un café ou d'un croissant, on rencontre des collègues et une amitié, une relation qui se développe. Toujours est-il que, sur le plan français, je suis complètement perdu dans mon papier, mais sur le plan français, Raymond Aron et Étienne Gilson incarnent les deux lignes totalement opposées, celle du neutralisme et celle de l'atlantisme. Comment surgit vraiment le point de départ de l'affaire Gilson sur un plan technique, sur un plan très matériel? Elle date, au-delà de l'emploi, donc l'affaire Gilson en février 51, elle date de décembre 1950, et il faut vraiment être attentif à la chronologie. Étienne Gilson est à Notre-Dame, il donne des conférences sur Duns-Scott, il est invité à prendre un pot après les colloques, et il a un certain nombre d'échanges privés avec des amis sur le campus de Notre-Dame. Il tient un certain nombre de propos qui sont rapportés à Valdemar-Gouriane, qui n'avait pas assisté aux conférences de Gilson. Ces propos qui sont immédiatement déformés, amplifiés et, pire encore, répandus dans la presse à travers une lettre ouverte que Valdemar-Gouriane expédie à la revue Commonweal à New York. Donc, on est là dans les tout premiers jours du mois de décembre 1950. Le 2 décembre, Valdemar-Gouriane écrit à Aron en lui disant « Gilson a mal parlé de vous, il a dit que vous étiez un agent payé par les États-Unis ». C'est une lettre qui était à la Bibliothèque nationale de France. Aron n'a pas l'air de prendre cela très au sérieux. Toujours est-il que le 3 décembre, donc le lendemain de cette lettre, Gouriane expédie cette lettre ouverte à Gilson dans la revue du Commonweal, qui est une revue catholique, assez libéral pour les États-Unis, mais en même temps très engagé, évidemment, du fait de l'actualité américaine du côté des troupes américaines en Corée. C'est la semaine où les volontaires chinois renversent en quelque sorte la vapeur dans le nord de la Corée et renvoient toutes les troupes de MacArthur vers le sud, montrant finalement l'impréparation militaire des États-Unis. Un sentiment de drame, en quelque sorte, dans l'opinion américaine. Le 5 décembre, Gilson est cette fois à Toronto, Il n'a pour l'instant aucune information concernant cette affaire qui est en train de se construire. Il écrit à l'administrateur du Collège de France qu'il a l'intention de demander sa mise à la retraite du collège. Il explique qu'il est épuisé, qu'il est vide, qu'il n'a plus rien à dire, que ses cours ne sont pas prêts pour la première fois depuis 20 ans, et qu'il a donc l'intention de prendre sa retraite, une retraite bien méritée, pense-t-il. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit dans sa lettre qu'il reviendra en France à l'été 1951. C'est un détail qui aura son importance plus tard, puisqu'on va accuser Gilson d'avoir fui le territoire de la République, d'avoir fui en quelque sorte au Canada pour se réfugier loin de cette France bientôt occupée par Moscou. La lettre de Gurian a un impact très fort, parce que Gurian, c'est un publiciste remarquable, envoie des tirés à part à tous ses correspondants français, à Sciences Po, au Comité catholique des intellectuels français, etc., etc. Donc il y a une très large réception en France de cette lettre de Gurian en anglais, lettre qui est traduite dans le Figaro littéraire le 27 janvier 1951. Qui traduit, je ne sais pas, c'est quelqu'un entre le bureau de François Mauriac et de Pierre Brisson. Et c'est cette lettre que vous avez dans le document distribué. Je ne la lis pas en conséquence, mais la charge est extrêmement violente et le nom d'Aron n'est pas publiquement prononcé dans ce document. Les motifs de Gurian sont au fond très simples. Il s'agit de défendre Raymond Aron, l'honneur de Raymond Aron sans le nommer, défendre l'Alliance Atlantique. Il s'agit de briser l'engagement politique de Gilson en faveur du neutralisme. Et ce qui est intéressant, c'est que Gilson, dans l'article de janvier 1951 dans le Figaro, est désigné comme le champion du neutralisme. Donc l'abattre et le liquider, en quelque sorte, c'était liquider la chose, l'idée. C'est évidemment un mauvais calcul sur le plan politique, mais en tout cas, telle était l'intention du journal. Concrètement, c'est cette traduction de janvier 1951 qui va déclencher en France et ensuite par effet de ricochet aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Belgique, en Suisse, etc., ce qui va devenir l'affaire Gilson. Alors, je ne développe pas présentement cet aspect-là. Ce qui me paraît tout à fait important, c'est ce qui concerne Raymond Aron et les propos tenus par Gilson. Alors, on se heurte à la documentation. Il y a un moment donné où on n'a pas de micro, n'est-ce pas ? On a simplement un compte-rendu. Dans la correspondance échangée entre Yves Simon, mentionné par Michel Fourcade, un ami de Maritain, qui est aussi un ami de Gurian, qui est aussi un ami de Gilson, qui est sur le campus de Notre-Dame et qui est professeur de philosophie à Notre-Dame, et à Chicago en même temps à ce moment-là, et il écrit à Maritain. « Vous savez que le rapport si indiscrètement publié par Gurian était entièrement exact, avec les deux réserves suivantes. Gurian a laissé penser, sans le dire, que Gilson avait fait des déclarations publiques. Il s'avère impossible d'établir les termes employés par Gilson au sujet d'Aron. » Donc c'est Yves Simon qui le dit. « Il s'avère impossible. Il semble que les choses se soient passées ainsi. Quand on a dit à Gilson « Tous les Français ne pensent pas comme vous, voyez Aron », Gilson a bondi d'impatience et a répliqué que les articles d'Aron étaient payés 25 cents, la ligne, et que les siens étaient payés seulement 5 cents. » Entre parenthèses, Yves Simon précise « Vous jugez du niveau ». Alors, quelqu'un a dit « Voulez-vous dire qu'Aron est un agent payé, un traître ?» D'après Paul, donc c'est l'épouse d'Yves Simon, d'après Paul, je n'étais pas là, Gilson aurait simplement répondu « Appelez ça comme vous voudrez ». Et Simon d'ajouter, il avait d'ailleurs peut-être bu un coup de trop. Donc, la mention est intéressante parce que ça tourne un petit peu autour de Gilson. C'est un bourguignon qui connaît tous les vignobles de sa Bourgogne et il y a souvent un peu d'alcool qui coule, n'est-ce pas ? On n'a pas de témoignage plus précis des propos tenus par Gilson. La formule « appelez ça comme vous voudrez » n'est pas une réponse affirmative à la question posée, mais elle n'est pas non plus, et c'est l'évidence, une négation, et elle entretient déjà la réputation de Raymond Aron comme agent américain. Ce dernier peine à croire la prétendue accusation. Il entend rester en dehors de l'échange, et alors même qu'il est l'objet non nommé dans la lettre ouverte de Gurian, la réputation de Raymond Aron comme agent américain est une question extrêmement délicate. j'hésite un petit peu à m'y engager trop rapidement, mais toujours est-il que dans la littérature autour de Raymond Aron, les soutiens financiers sont avérés de la CIA pour certaines revues, certains groupes de presse, etc., à partir du milieu des années 60, et à Raymond Aron quittera un certain nombre de revues où il avait donné quelques articles, mais on est là 15 ans après le dossier Gilson. Alors évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que Gilson a répondu trop rapidement, un peu disant la vérité par accident? Peut-être. Est-ce qu'il avait bu un coup de trop? Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais le point important, à mon sens, c'est que précisément, le scandale arrive par Waldemar Gourian. Et l'élément découvert dans les archives de Gourian à Washington, c'est qu'au fond, Gourian, lui, sait très bien qu'un certain nombre de réseaux en Europe sont financés par les États-Unis. Et on a des éléments très factuels. Waldemar Gourian va donner des cours aux étudiants, aux futurs officiers de la CIA. On trouve des traces de chèques de la CIA. Il est félicité par le grand directeur du FBI qui promet tous les ouvrages de Waldemar Gourian. Il apparaît en quelque sorte au seuil de la guerre froide comme le spécialiste d'origine russe, passé par l'Allemagne, parfaitement expert dans les questions communistes, nazis, nationalisme, etc., européennes. Autant de questions, je pense, que le niveau moyen les États-Unis, enfin, ils avaient vraiment besoin d'expertise. Et Gourian vient remplir un vide, d'une certaine manière, et il est très largement financé par ces milieux-là. Donc si Aron ne savait pas, lui, Gourian savait, et probablement, alors là, c'est l'interprétation de l'historien, mais il cherchait à couvrir les arrières de Raymond Aron. Sans Aron, à partir de janvier 1951, la polémique va prendre un ton nettement moins courtois. Alain de Libera évoquait l'article du Canard enchaîné du 31 janvier 1951 où Étienne Gilson se fait traiter de rat d'élite. Alors, il y a toute une poésie animalière qui va se développer à ce moment-là. Étienne Gilson est comparé à un rat, il est comparé à un âne de Buridan, un âne qui est incapable de choisir entre Moscou et Washington, donc qui va mourir de faim. On trouve dans la correspondance de Gourian un grand nombre de soutiens, par exemple le fondateur du Centre de relations internationales de Sciences Po, qui apprécie particulièrement le texte du Commonwealth. Merci et bravo pour votre lettre ouverte. Il faut que vous sachiez et que vous disiez autour de vous combien nous agace certaines attitudes anti-américaines systématiques à une heure où nous savons bien d'où vient le péril. Eric Weil, le philosophe, remercie Waldemar Gourian également. J'avais entendu parler de ces histoires concernant Aron. C'est important parce que les rumeurs courent déjà. Et je suis heureux que vous ayez réagi. À part cela, vous savez que je n'ai jamais approuvé l'attitude neutraliste. On pourrait invoquer des dizaines, voire des centaines de correspondances. Enfin, les dossiers sont pleins. Hein. Les dossiers de Gilson, les dossiers de Gourian, les dossiers d'Hubert Beuve-Méry au Centre d'histoire de Sciences Po, c'est vraiment un élément qui cristallise l'opinion publique à ce moment-là. Gilson est enrôlé par les communistes en cette occasion, n'est-ce pas? Ça fait partie des éléments troublants du tableau. Et on voit des commentaires qui sont de l'ordre de la vengeance politique. Quelqu'un comme, par exemple, Gabriel Marcel, qui avait jusque-là entretenu un certain nombre de correspondances amicales avec Étienne Gilson, publie dans Aspect de la France en 1951 un texte épouvantable pour dénoncer la sécession d'Étienne Gilson, qui lui apparaît, je cite, comme un acte grave et, vu les conditions dans lesquelles elle s'est produite, tout proche de la trahison, qu'un homme cruellement éprouvé et peut-être usé à la fois par le travail et par le chagrin se sente incapable d'affronter certaines épreuves. C'est là un fait qu'on peut déplorer, mais qui n'appelle par lui-même aucune condamnation. Mais l'incroyable publicité que Gilson a donnée à sa décision en Amérique transforme complètement son acte, etc., etc. Ça l'inspire tellement, cette affaire, Gabriel Marcel, qui va la porter au théâtre. Et dans la pièce « Rome n'est plus dans Rome », qui est donc du printemps 1951, eh bien, c'est Gilson qui fournit le thème à la pièce. Je cite simplement le cadre, en quelque sorte. Hein. À l'arrière-plan de « Rome n'est plus dans Rome », il y a un personnage, Pascal Laumière, membre de l'Académie Sainte-Beuve, piètre résistant, C'était une des accusations qu'on avait portées à Gilson, mauvais patriote, peureux, soucieux de la seule publication de ses articles, expatrié par lâcheté dans une université catholique du Brésil, afin, je cite, de se mettre à l'abri. Eh bien, derrière ce Pascal Laumière, c'est bien sûr Étienne Gilson. Laumière, dans la scène finale de la pièce, s'écroule sur le sol après avoir affirmé à la radio des émigrés français « Nous avons eu tort de partir, il fallait rester, il fallait lutter sur place. L'illusion qu'on peut emporter sa patrie avec soi ne peut naître que de l'orgueil et de la plus folle présomption. » On ferme le rideau. Fin de cette histoire, si je puis dire. Il y a un moment, évidemment, d'apaisement de mémoire et de non-résolution de cette affaire Gilson, de cette question du neutralisme. Tous les amis de Waldemar Gourian, avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de franchise, lui expliquent qu'il s'est complètement trompé dans sa controverse, laisse tomber, lui dit-on en anglais, le dossier, qu'importe les conséquences. Ce qui est reproché, y compris donc, évidemment par Gilson, mais par les amis de Waldemar Gourian, c'est le procédé, avoir diffusé publiquement des propos privés qu'il n'avait pas entendus et d'avoir diffusé finalement des simples rumeurs. D'autant que Gourian laissait entendre qu'il avait entendu et qu'en fait, il n'était pas là. Tous les témoins mobilisés par Waldemar Gourian vont se récuser. Les procureurs vont finir par présenter assez platement leurs excuses. Les institutions vont finir par réparer le tort qu'ils avaient commis. Et, par exemple, François Mauriac publie en mars 1951 « Nous sommes enchantés d'apprendre aujourd'hui que nous avions été abusés, que M. Étienne Gilson ne quitte pas nos rivages sans esprit de retour. Étienne Gilson, cette fois, n'est plus un fuyard, mais au contraire, il devient analogue à Bernanos, eh bien, un représentant de la culture française à l'étranger. Le statut change tout, n'est-ce pas ?» En mai 1951, la revue Commonweal, que la controverse avait assez secouée en interne, va publier une amende honorable. On regrette notre échec. Le même mois, la revue The Nation à Washington, favorable à Gilson, conclut sa présentation de l'affaire en soulignant, je cite, que seul un idiot pouvait qualifier de pro-russe la position du philosophe, dont la liberté d'expression a été compromise par les insultes de ceux qui se servent de la guerre froide pour régler des vieux différends sur le plan politique. Waldemar Gourian, en septembre et octobre 1951, va à nouveau va présenter ses excuses à son tour auprès de Gilson. Je dis quelques formules rapides. En citant des conversations privées, j'ai fait une faute que je vous prie de bien vouloir me pardonner. J'ai vivement regretté les attaques personnelles dont vous avez été l'objet. Je ne vous ai pas personnellement entendu tenir les propos rapportés dans ma lettre ouverte. Je concède également que pour garantir plus certainement l'exacte interprétation de votre pensée, il eût été préférable de vous consulter. Gilson de lui répondre avec magnanimité, la bonne foi d'un témoignage n'en garantit pas la vérité. Il regrette que, je cite, la sincérité des passions politiques se prenne pour une preuve de vérité. En 1956, le Collège de France va réparer la faute et il y aura des publications dans la presse, une lettre de l'administrateur du Collège, Marcel Bataillon, à Étienne Gilson. Je peux le dire peut-être même en ces lieux, Marcel Bataillon n'était pas toujours très clair dans ses explications. Il était, disons, un peu embarrassé quand il explique que le vote de 1951 n'avait aucun rapport avec les fluctuations de l'opinion française au sujet de l'opinion, au sujet de la politique atlantique. Au moment du décès de Gilson, Le Monde va publier un long article pour faire le point, et c'est dans cet article-là qu'on retrouve donc la position prégaulienne, en quelque sorte, de Gilson avant le général de Gaulle, qui, en 1949-50, était plutôt du côté de Raymond Aron. Dans le dossier du neutralisme, et donc de l'affaire Gilson, avec le recul qu'offre la distance historienne, je crois que certains éléments commencent à se dégager avec netteté. Évidence, violence des passions dans la querelle neutralité-alliance atlantique. Autre évidence, efficacité de la campagne menée contre Gilson, qui n'interviendra plus sur le plan politique. Lui qui avait donné 150 articles entre 1945 et 1951 dans Le Monde, après l'affaire Gilson, il en donne juste quelques-uns au sujet d'Auguste Comte et de Bergson. Enfin voilà, c'est des contributions très philosophiques, mais il est désormais sorti du terrain politique. Et en même temps, autre point peut-être moins évident dans la période, mais à mon sens, la justesse des analyses d'Étienne Gilson dans le long terme. Ce qu'Aron lui-même concéderait bien volontiers, puisque les principales réserves de Raymond Aron portaient non pas sur le long terme, mais, je le cite, sur l'heure présente. Après l'affaire, Thiers exclu de la scène parisienne, Gilson s'installe au Canada, à la fois pour fuir l'agitation bipolaire de Paris, pour fuir les controverses, pour fuir le fantôme de son épouse Thérèse, et de manière plus positive, pour retrouver l'Institut médiéval de Toronto et y enseigner. En 1953, il regrette, dans une lettre assez franche à Francis Gueguet, l'un des leaders du MRP, l'absence de liberté dans les pays démocratiques, la corruption intellectuelle en France liée au dollar, les failles internes du Parti démocrate chrétien, puisque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les ministres des Affaires étrangères, Maurice Schumann, Georges Bidault, étaient des proches d'Étienne Gilson. Il va jusqu'à parler d'une occupation de la France par l'armée américaine, et il va falloir attendre l'été 1965 pour que Gilson revienne dans les débats intellectuels et ecclésiaux, non pas sur le plan politique, mais dans le contexte de l'événement conciliaire. Intellectuel atlantique, mais non pas atlantiste, confronté au neutralisme américain pendant la drôle de guerre, mais anticommuniste, je ne l'ai pas développé, mais ça serait une communication à part entière, philo-atlantique sur le plan politique au seuil de la guerre froide, sans inclusion, sans satellisation de l'Europe auprès du grand frère américain, au nom précisément d'un attachement à la défense armée, à la neutralité armée de l'Europe. Et je crois qu'il y a là, donc au-delà de la controverse, quelque chose de profondément juste dans l'intuition d'Étienne Gilson, même si le débat sur le contexte de 49-50 reste, à mon sens, entier. Voilà, je vous remercie.